Salut, c'est Anouk. Je suis professeure de yoga et une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, de l'inspiration et des conseils de moi ou de mes invités pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Si tu souhaites recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com. J'enregistre cet épisode dans la maison de mes parents où j'ai grandi et j'avais envie de laisser l'environnement sonore parce que c'est très agréable, il y a une petite rivière, vous allez peut-être entendre des oiseaux. C'est la maison dans laquelle j'ai grandi, j'ai passé mon collège, mon lycée et mes amis à l'époque l'appelaient la maison du bonheur. Alors, sans rien idéaliser, bien sûr. Je me rends compte quand même aujourd'hui que j'ai eu énormément de chance et que d'avoir une enfance épanouie n'est pas donné à tout le monde. Et même s'ils n'ont pas été parfaits non plus, je suis vraiment très reconnaissante pour l'enfance que m'ont offert mes parents. Sur les réseaux sociaux, je parle pas mal de la relation que j'ai avec ma mère notamment, qui s'est énormément développée au cours des dernières années. Je pense que comme on a toutes les deux grandi, on trouve aujourd'hui une relation qui est belle, qui est épanouie, malgré le fait qu'il y ait eu plein d'ajustements. Et de fait, j'avais vraiment envie de l'inviter sur le podcast. Donc vous verrez, elle parle de la relation mère-fille, que ça a été avec sa propre mère ou elle, en tant que mère, ce qu'elle pense elle a fait de bien et si elle avait une deuxième chance, ce qu'elle referait. Elle parle aussi de l'importance d'avoir un cadre, de mettre des règles. Et ma mère, je vous le dis comme ça, elle a vraiment une autorité naturelle qui est très rassurante et qui nous permettent de nous épanouir. Donc elle parle pas mal de ça, j'espère que ça vous inspirera. Elle parle également de sa relation au surf, elle vous expliquera quand est-ce qu'elle s'y est mise et comment elle a fait pour arriver aujourd'hui à surfer des vagues franchement assez grosses et juste sa philosophie autour du surf, qui est une très belle philosophie, qui m'a énormément inspirée lorsqu'elle en a parlé. Elle parle également de sa prochaine partie de sa vie, d'être grand-mère et d'arriver dans le dernier tiers de sa vie, de pareil, sa philosophie, des challenges qu'elle rencontre et de comment elle les dépasse. Cette discussion avec ma mère m'a vraiment inspirée à me dire « Mais Anouk, mais en fait, fais tout ce que tu as envie de faire et ne te limite pas. » Je me suis rendu compte à quel point j'ai peut-être tendance à me dire « Bah non, ça je peux pas faire parce que... » Mais de vraiment, au contraire, être dans cet état d'esprit de « En fait, je n'ai pas de limites et la seule limite, c'est moi. » J'espère que cette interview vous inspirera tout autant. Belle écoute et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Ok, de nouveau, test.
Je m'appelle toujours Anouk, Corinne, je suis toujours la maman d'Anouk.
Je m'appelle toujours Anouk, je suis la maman de Corinne.
C'est bien.
J'ai l'honneur de recevoir ma mère dans cet épisode de podcast. Maman.
Anouk.
Alors... J'ai décidé de t'inviter sur le podcast, déjà parce que j'en avais envie depuis un petit bout de temps. Il me semble que je t'en avais parlé peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, et puis peut-être pas encore le bon timing. Mm-hmm. Et je t'ai donc mentionné sur un des derniers podcasts, un des derniers épisodes, sur des choses que j'ai trouvées très inspirantes. Je parle pas mal de toi quand même sur Instagram et dans ce que je partage parce que t'as toujours des petites choses qui font des déclics.
Un peu normal, je suis géniale.
Oui, t'es assez géniale, tu es ma mère. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas le... on en plaisante, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de relations mère-fille et qui sont pas évidentes. Toi, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ta mère? Est-ce que c'était difficile? Je pense qu'on va commencer avec ce sujet-là, la relation mère-fille.
Oui, ben moi, ma relation à ma mère n'était pas des plus épanouies, des plus enrichissantes. Elle a été jusqu'à la violence, cette relation, mais en fait, quand même, avec le recul en vieillissant, ce que ça m'a appris, c'est que une relation n'est deux, et que quand toi t'es l'enfant, si la relation n'est pas épanouie, c'est parce que l'adulte a une problématique. Et donc, en maturant, je veux dire ça en maturant moi, probablement grâce à mon boulot, puisque je suis thérapeute et donc il faut que tu fasses quand même des démarches en tant que thérapeute, j'ai un peu compris ça, j'ai un peu compris que si l'adulte a une problématique qu'il n'arrive pas à résoudre, il a du mal dans sa relation adulte-enfant. Tout ça pour dire que c'est pas vraiment la faute de l'enfant, c'est de la responsabilité de l'adulte. Et ça, moi, ça m'a beaucoup appris à me dire « faut que je pose mes valises à moi si je veux une relation saine avec mes propres enfants ». Et pour finir, je remercie ma mère d'avoir pu apprendre ça de ma part, de me dire « attention, il faut que l'adulte soit confortable dans ses baskets pour pouvoir être confortable dans une relation par enfant, mais probablement aussi dans une relation de couple, probablement dans ses relations en général. Donc, moi j'ai appris à poser mes valises, à m'enrichir moi, et donc ça implique quand même que chaque individu, donc moi, j'aille bien. Je vais te donner un exemple, surtout au moment de l'adolescence, moi j'en vois beaucoup dans mon cabinet, des mamans qui sont très en conflit avec leur adolescent. Pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'elles prennent personnellement ce que l'adolescent balance. Si on prend ton exemple à nous qui nous a un jour sorti qu'on était relou, ben nous on n'y a jamais cru qu'on était relou. Tu vois, on n'a pas pris personnellement le fait de « ouais, on est relou avec tout ce qu'on a fait pour elle, quelle ingratitude, aucune reconnaissance ». Non. Quand tu dis « mes parents sont relous », c'est parce que nous, tu nous vois comme ça, parce que vu de ta planète, évidemment qu'on est relou. Mais ce n'est pas égal, nous ou moi, je suis relou. Tu vois ? Et ça, ça n'est possible que si… Toi, l'adulte, t'as posé un peu tes valises, tu prends la distance et que tu vois bien que tu prends pas les choses personnellement.
Pour la petite Astérix, quand même, il me semble pas vous avoir dit relou, mais il me semble avoir employé des termes un peu plus engagés.
Il y a eu une fois où t'as dit relou, après il y a eu d'autres fois où il y a des termes engagés, et je m'abstiens d'en parler ici.
C'est gentil, merci. Alors, justement, dans la relation mère-fille, ou peut-être plus généralement dans l'éducation, bon, moi je pense que vous avez fait un super job. Qu'est-ce que toi, de vue de ta planète, toi et Dad, mais bon, plus particulièrement toi, même si c'était une dynamique aussi de couple, tu penses que tu as réussi dans cette éducation ? Et qu'est-ce que aujourd'hui, avec le recul, tu te dirais « ah, je ferais un peu différemment ».
Alors moi, je rebondis tout de suite dans ta question sur il y a une dizaine de jours. J'étais assise dans un parc avec une jeune maman que je connais et qui me parle de sa fille et de ce qu'elle voit chez sa fille et qui l'ennuie, une petite fille de 2 ans. Hein, et qui me dit « je sais pas ce qu'on fait de mal ». Je me suis dit « waouh, quelle belle question. Qu'est-ce que nous, les parents, on fait de mal ?» Et je lui ai dit « tu sais, moi, je crois que la seule chose qu'on peut faire de mal, mis à part frapper son enfant, ne pas le nourrir, la maltraitance, hein, bien sûr, mais la seule chose qu'on peut faire de mal, c'est de ne pas reconnaître très vite ce qu'est l'enfant pour le forcer à être quelque chose qu'il n'est pas. Je pense que notre rôle de parent, en fait, c'est très vite d'identifier un peu ce qu'il est pour l'aider à s'épanouir dans ce qu'il est. Et non pas, et c'est pour ça qu'il faut avoir posé ses valises, projeter ce qu'on voudrait qu'il soit, et donc le pousser dans une voie qu'il n'est pas. Et ça, je pense que intuitivement, Yann et moi, donc Yann c'est ton père, hein, on a, je dirais intuitivement parce que j'aurais jamais été capable d'en parler comme ça, mais intuitivement, on a su faire ça. Pas toujours très bien, parce qu'on projette toujours notre enfant imaginaire. Si vous êtes grimpeur, vous dites, ben moi ce que j'aimerais vraiment, c'est que ma fille ou mon fils soit grimpeur. Voilà, donc on l'emmène à l'escalade tout le temps, ben manque de peau, lui, il est guitariste, enfin il est musicien dans son âme, voilà. Donc je dis pas qu'on a fait parfait, loin de là, mais je pense quand même qu'assez vite on a perçu ça avec Yann et qu'on a essayé de vous laisser vous épanouir dans ce que vous êtes. Et ça, c'est vraiment, vraiment la chose que je me félicite et que je nous félicite, c'est que, voilà, on prend l'exemple de Yann qui faisait beaucoup, beaucoup de surf déjà, qui adorait ça, où on a tenu une école de ski nautique, on a fait beaucoup de ski nautique. Ça ne vous intéressait pas.
Non. Je me souviens.
On n'a jamais cherché à vous lancer là-dedans. Avec toutes les critiques qu'on entendait. Mais enfin, vous tenez une école de ski nautique, vous ne faites pas faire de ski nautique à vos enfants. Ben non, parce que elles, ça ne les intéresse pas. Donc, et tu vois, je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout de suite avant. C'est vraiment, moi, je suis moi, l'adulte. Et moi, je m'épanouis là-dedans. On n'est pas égal. Mon enfant a envie de ça. Et en surf, c'est pareil. Vous avez très vite adoré l'océan, mais pas du tout aller vous mettre dans les vagues et surfer et tout. Et pour finir, on a deux filles surfeuses avec qui on partage des moments extraordinaires à l'eau. Mais je veux dire, on n'a pas poussé à ça. Voilà. Et à côté de ça, vous êtes deux filles assez différentes. Maë a toujours aimé les enfants, a toujours aimé l'épanouissement des enfants, etc. Elle a pris son chemin à son rythme et pour finir, elle est là-dedans. Et toi, je peux dire cette anecdote, à 14 mois, quand je t'ai vue, je te revois dans ton baby-gros debout et me dire « Waouh, mais quel ancrage !» Et ça ne m'étonne pas du tout que tu travailles dans... avec une branche très forte spirituelle dans ce que tu es, parce que tu es comme ça, mais tu es né comme ça. Et je suis très fière qu'on n'ait pas gâché ça. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait laissé s'épanouir au maximum, on aurait sûrement pu faire mieux, mais on ne l'a pas gâché. Et ça, moi je pense que je suis assez fière de moi là-dessus.
C'est clair. Et oui, comme tu dis, je pense que c'est parce que vous êtes aussi dans votre épanouissement et que vous êtes construit sur des sentiers qui n'étaient pas forcément voilà, la norme. Enfin, toi, tu as été ostéopathe, ce qui était assez révolutionnaire à l'époque. Dad, il a mené sa barque dans les sports de glisse, mais avec un métier qui était aussi... hyper créatif et qui lui ressemblait, et vous avez fait vos choix en fonction de qui vous étiez, et du coup ça permet de mieux respecter aussi, de mieux comprendre que chacun est fait pour quelque chose et qu'il faut le laisser s'épanouir là-dedans.
Oui, moi je pense que c'est ça le secret de la relation, qu'elle soit mère-enfant, qu'elle soit de couple, qu'elle soit d'un autre collègue ou quoi, c'est le respect de ce qu'est l'autre. Et pas essayer de faire ce que nous, on voudrait que l'autre soit.
Et maintenant, qu'est-ce que tu ferais différemment ?
J'essaierais de vivre beaucoup plus dans la confiance. La confiance pour moi, je vais y arriver dans ma vie. La confiance pour vous, vous allez y arriver dans la vie. Et j'arrive quand même, pas à la fin de ma vie, j'espère, mais j'arrive quand même plutôt du côté de la fin que du début. Même là, je travaille encore sur quoi qu'il arrive, si je m'en vais demain ou après-demain ou dans 10 ans ou en 20 ans, elles vont y arriver dans leur vie. Alors, qu'est-ce que c'est y arriver ? Elles vont vivre leur vie qu'elles ont à vivre. Avec des hauts, des bas, des obstacles, mais j'ai confiance, vous avez la force, vous avez le power pour traverser les obstacles qui vont se présenter à vous. Et ça, j'aurais voulu avoir cette confiance avant. avoir confiance dans la vie, avoir confiance en vous. Et donc, être peut-être, enfin, pour moi, si tu veux, les parents, on est là pour sécuriser l'enfant, pour le rendre dans un milieu sécuritaire, avec un cadre qui est assez étroit quand on est petit, parce que la sécurité, elle passe par la sécurité physique, la sécurité, voilà. Puis un cadre qui s'élargit. C'est un échange, je ne sais pas si tu te souviens, une fois on avait une discussion où tu m'as dit « mais j'ai 16 ans, le cadre il faut qu'il s'écarte ». Et je crois avoir entendu ce que tu me disais en me disant « ok, il faut que je serrais peut-être trop le cadre à ce moment-là ». Tu vois, avoir probablement plus confiance, si je pouvais refaire. Mais c'est tout, sinon... Moi, je me dis pas que j'aurais voulu être un artiste, hein, tu vois, non.
Même pas en chantant.
Même pas en chantant.
Et justement, parle de l'importance de ce cadre, parce que je pense qu'il a été très important pour moi dans mon épanouissement, même si au moment de l'adolescence, je m'en rendais pas compte, parce que je te sortais des phrases comme... Bah, toutes mes amies, elles font ça, elles sortent le soir, et tous mes potes, ils ont ci, et c'est pas que t'as été autoritaire, mais t'as été ferme sur ce cadre. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un cadre? Parce que je sens que ça, c'est très important, en fait. Aujourd'hui, pareil, avec le recul, je me dis, mais heureusement, et en fait, même je vois, aujourd'hui, des enfants avec les réseaux sociaux et les téléphones et tout, bah, s'il n'y a pas de cadre, c'est pas épanouissant pour l'enfant non plus. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi, le cadre ?
Alors d'abord, quand on est petit, c'est important parce que l'enfant, il n'est pas autonome. Il n'est pas autonome dans ses décisions, il n'est pas autonome... quand vous dites à un enfant, quand on dit à un enfant... il faut aller te coucher. Ben, si l'enfant il n'a pas envie d'y aller, ben, il dit non. Si on dit dans 5 minutes on va se coucher, d'accord ? Ben, s'il n'est pas d'accord, même s'il a 2 ans, il va vous dire non. Donc, à un moment donné, il faut savoir qui commande, qui prend la décision pour le bien de l'enfant, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il faut qu'il aille se coucher. Donc pour moi, le cadre, c'est important, c'est de dire, attention, dans 5 minutes, on va se coucher. Et il n'y a pas de négociation possible. Pour moi, on ne négocie pas avec un enfant de 2 ans. On peut lui donner des choix. Tu préfères vanille ou chocolat ? Voilà. Mais si on a dit, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de glace. Et si on a dit, il n'y a qu'une boule, ce sera vanille ou chocolat. Tu vois, c'est... Et l'enfant, il a besoin de ça. Il est incapable de prendre la décision... pour son épanouissement à lui. Quand on bascule dans l'adolescent, l'adolescent, il commence à prendre des décisions. J'ai envie de sortir, mes copains sortent, etc. Ok, mais il y a quand même une notion petit un de sécurité, d'hygiène de vie, et aussi de tranquillité de l'esprit. C'est tellement un tsunami émotionnel, hormonal, d'être adolescent, qu'en fait, ils sont incapables de savoir réellement où sont les limites pour eux, et que si t'en mets pas pour eux, ben, ils se perdent. Moi, je pense que l'importance du cadre, c'est la sécurité chez les petits, et c'est de ne pas se perdre chez l'adolescent. Bien sûr que l'adolescent, il est hyper content quand ses parents sont pas disponibles et donc il peut faire ce qu'il veut. Mais il n'est pas heureux parce qu'il se perd. Il ne sait pas où aller après. Et donc, on se retrouve avec des ados qui tournent en rond, qui savent pas ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils savent pas quel est le sport, qui savent pas... Et en fait, c'est simplement parce qu'ils se perdent s'ils n'ont pas de cadre. Alors, c'est sûr que c'est pas la même rigueur quand on est adolescent et quand on est enfant. Mais moi, je pense sincèrement qu'un enfant qui n'a pas de cadre est en insécurité. Et un enfant qui est en insécurité, il grandit pas dans la confiance en lui, il grandit dans la peur. Et un adolescent qui n'a pas de cadre, il se perd. Il ne se construit pas. Il se perd. Et donc, Donc moi, oui, je pense que c'est vraiment important de mettre des cadres. Alors les cadres, c'est pas forcément crier tous les jours « t'es pas rentré à 6 heures ». Mais les cadres, chez un ado, c'est quand même « non, tu sors pas 3 fois par semaine ». Tu m'avais dit ça une fois, oui, tous mes copains et copines sortent, etc. Et je t'avais répondu « oui, mais vous ne pouvez pas sortir sans fumer une cigarette et boire une bière ». Ben moi, je considère qu'à 16 ans, fumer une cigarette 3 fois par semaine et boire une bière 3 fois par semaine, c'est trop. Si tu me disais « on sort, mais on fume pas, on boit pas », tu pourrais sortir plus. Mais comme ça, c'est pas possible, ben, je suis obligée de mettre une limite. C'est moi qui la mets pour toi, parce que toi, tu pourras pas la mettre pour toi. T'as pas cette capacité, mais cette capacité, c'est pas assez bien ou mal. T'as pas cette capacité de maturité, puisque tu n'es que adolescent, de gérer ça. Et c'est à nous, l'adulte, de le faire. Et pour moi, c'est une sacrée responsabilité. Nos enfants ne sont pas nos copains. On est là pour aider nos enfants à s'épanouir, à aller de l'avant et à trouver leur voie, quoi. À s'épanouir dans leur voie, dans ce qu'ils sont. C'est pas nos copains. On devient plus copine quand on est deux adultes, c'est-à-dire maintenant. On va partager des choses, on va se dire des choses que je ne ferai pas avec un adolescent et ni avec un enfant.
Ouais. Et à la fois, je trouve que ça n'empêche pas le fait que après, moi j'ai quand même beaucoup fait la fête, parce que je pense que j'avais besoin d'explorer mes propres limites. Mais à un moment donné, j'ai senti que c'était plus confortable pour moi, parce que je pense que j'ai su ce que c'était être confortable dans un cadre avec des meilleures limites. J'avais ce souvenir de ce que c'est quand il y a un cadre. Tu vois ce que je veux dire ? Mm-hmm. Donc même si j'étais seule à un moment donné, j'ai fait la fête en Australie, machin, à un moment donné, je me dis, là, en fait, je me sens pas heureuse parce que je sais comment c'est quand j'ai un cadre et du coup c'est moi qui l'ai remis parce que j'ai eu connu le cadre. Mais je pense qu'en effet, si t'as jamais connu ce cadre, ben tu sais même pas te le mettre toi-même en fait à un moment donné, ou c'est plus difficile quoi.
Ah ben non, si t'as jamais eu de cadre, tu te le mettras pas. Et c'est vrai pour toute ta vie quoi, je veux dire, c'est vrai pour te lever le matin et aller bosser, tout ouais. Simplement. Il y a des moments... Et puis moi, je pense quand même que mettre un cadre, ça permet, alors on va même l'enfant, hein, à n'importe quel être, quand tu as un cadre, ça permet de braver un interdit. Ouais. Et braver un interdit, ça fait partie de l'épanouissement. Tu te souviens une fois où j'avais dit vous rentrez à minuit, vous étiez ressorti. Bon, c'est ce que je dis, quand on brave un cadre, d'abord ça met un peu d'adrénaline. Et le problème c'est si tu te fais piquer. Mais après si tu t'es fait prendre en ayant bravé le cadre, faut assumer. Voilà, et ça c'est un peu la vie aussi. Il y a des moments... On te dit qu'il faut rouler à 50 et puis le flash il te prend à 70, t'es sorti du cadre. Faut assumer. Et t'apprends à l'adolescence aussi, t'apprends chez l'enfant à assumer le fait que tu aies bravé le cadre. Et que, en même temps, c'est challengeant. Donc, s'il n'y a pas de cadre, où est-ce que tu montres que tu es brave et que tu sors du cadre? Tu vois, où est-ce que tu te montres ça à toi-même? Et puis après, tu braves le cadre, on t'a pas pris, t'es content. Tu braves le cadre, on t'a pris, t'apprends à assumer. Et donc, tout ça, c'est pour moi, c'est l'importance du cadre. Vraiment. Après, un cadre, ça se met pas forcément, ça se met pas dans la violence. Un cadre, ça peut se définir avec la personne qu'on a en face de nous. Hein. On pose le cadre, mais après, on le respecte. Le but du jeu, souvent, pour l'ado, c'est de sortir de ce cadre. Bien sûr,
Mais après, c'est la dynamique.
C'est la dynamique. Après, pour moi, l'adulte, ça sert à rien de crier parce que l'ado est sorti du cadre, parce que ça fait partie du jeu si tu mets un cadre. Mais sauf que l'ado doit apprendre à l'assumer qu'il est sorti du cadre. Voilà.
Très bien. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a une relation plutôt chouette pour, une maman qui nous écoute, peut-être une jeune maman. Ou... Qu'est-ce que tu dirais seraient peut-être des conseils pour créer une relation épanouissante avec son enfant ?
Cette question, elle est hyper difficile parce que je pense que déjà chacun fait de son mieux. Et que ça, si tu te dis que déjà tu fais de ton mieux, c'est déjà énorme. Voilà. Parce qu'on a tous nos bagages. Il y en a pour qui c'est assez facile et puis il y en a pour qui c'est difficile. Le seul conseil que je donnerais, c'est que ne pas prendre personnellement, ne pas se dire qu'on fait mal. Mais si quelque chose nous pèse avec notre enfant ou notre adolescent, allez se faire aider. Pas, je veux dire, si quelque chose nous pèse, c'est que nous, quelque chose nous pèse. Tu vois, c'est voilà. Et que plus on va digérer ce qui nous pèse, plus ça va être fluide avec son enfant. Mais après, faire de son mieux déjà, c'est déjà énorme. Après, moi, je me rends bien compte aussi que... Moi, je travaillais quand vous étiez petite, mais avec des emplois du temps que je pouvais adapter. Et du coup, c'était, j'avais beaucoup de disponibilité pour vous. Moi, quand je vois, ne serait-ce que ta sœur, il faut bosser, il faut rentrer, il faut faire à manger, il y a des moments où on a la tête sous l'eau quand même, tu vois. Et je pense que là-dessus, j'aurais aussi envie de dire aux jeunes mamans, faites-vous un réseau, aidez-vous entre vous, parce que sinon c'est trop lourd. C'est trop lourd les vies de jeunes mamans aujourd'hui. Et donc, faites-vous un réseau, soutenez-vous entre vous, voyez si vous avez des grands-mères, des grands-pères qui peuvent vous aider. Il faut mettre un réseau en place. On ne peut pas être superwoman, mère de famille, avoir un boulot, il faut s'investir, faire la femme de ménage, le couple, quand le couple il y a encore, tu vois. Voilà, moi je dirais ça. Faites de votre mieux, mais si quelque chose vous pèse, comprenez que c'est en vous que ça pèse. Donc, allez le décharger chez un thérapeute, chez une psychologue, peu importe, allez en parler pour voir pourquoi ça vous pèse ça. Parce que si ça vous pèse, vous mettez de la lourdeur dans la relation. Et la lourdeur dans la relation, elle n'engendre pas quelque chose de très sympa. Voilà, moi je donnerais ça. Mais déjà, faites de votre mieux. C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que tu penses des moments de partage aussi autour de choses simples ? Enfin, je sais que nous, on a fait plein de voyages qui n'étaient pas forcément très onéreux, mais par exemple, partir en camping-car, partager des petites choses simples, des moments de joie. Bon, pour ça, il faut être bien, c'est sûr, mais... Bien
ah bah c'est sûr que il y a quand même une chose qu'il faut savoir, surtout quand on est maman de petit, ça prend du temps et c'est très exigeant. On est obligé de s'oublier un peu quand même. Moi, ça m'a pas mis trop de difficultés parce que moi, je me suis épanouie à élever mes enfants. Mais je peux comprendre que si des femmes, c'est pas forcément leur truc, ça soit plus compliqué. Mais c'est sûr que si on veut créer une relation avec ses enfants, il faut donner du temps à cette relation, comme toute relation. C'est pas parce qu'on fait que à bouffer, les coucher, les rendre propres, laver leurs fringues et tout, c'est pas ça la relation. Si on veut créer une relation avec ses enfants, faut donner du temps à cette relation. Et donc, faut pas hésiter à s'asseoir et jouer au Playmobil. Il faut pas hésiter à aller jouer au parc et à mettre de la musique et à danser. Faut pas hésiter. C'est ça qui crée qui nourrit une relation. C'est pas que d'habiter dans une même maison. Et le problème, c'est qu'il faut aussi nourrir sa relation de couple. laquelle il faut nourrir aussi en ayant des moments, en ayant, voilà. Et puis, il faut se nourrir sa relation à soi-même, parce qu'il faut être bien dans sa peau pour pouvoir avoir une légèreté. Et ben, parfois, c'est un peu dur. Parfois, c'est un peu dur, il faut être honnête. Mais voilà, dès qu'on n'est pas bien avec soi-même, déjà, on peut se faire aider. Et nourrir la relation avec son enfant. Je crois que c'est ça. Et avec son couple. Avant de se dire que tant pis, on a fait à manger, il faut faire vite, quoi. On n'est pas forcé de, tu vois, de... Je crois qu'il faut nourrir la relation. Parce que la vie, c'est ça. C'est les relations. C'est pas d'aller forcément à Euro Disney, c'est pas forcément d'aller, tu vois... Quand on va en week-end, je sais pas, nous on a de la chance, on vit à côté de la forêt, mais d'aller regarder les animaux en forêt, d'aller, jouer avec mes petites filles, on cueille des feuilles, hein, on cueille des feuilles et puis après on les jette dans la rivière, mais où on a fait une canne à pêche et on attrape les feuilles. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste du temps passé ensemble. Et ça, c'est important, je pense.
Maintenant, parlons de surf. Il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui me demandent mais à quel âge elle a commencé, comment elle a fait pour surfer comme ça.
Alors moi je vais mettre toute une précision, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est une photo, hein. C'est pas forcément le reflet
de
mon niveau de surf.
Bah oui, mais une photo malgré tout, généralement en plus on est assez déçu quand on se voit en photo de surf et toi on est plutôt impressionné. Donc pour les gens qui nous écoutent, quand est-ce que tu as commencé? Pour même les femmes, tu vois, qui nous écoutent et qui aimeraient bien s'y mettre, mais qui sont là, je suis trop vieille ou je sais pas quoi, tout ça.
Moi, si un jour je te dis je suis trop vieille, je t'autorise à me mettre une claque. Parce que je pense que, quoi qu'il arrive, on peut commencer tout et n'importe quoi à n'importe quel âge. C'est pas ça le problème. Moi, personnellement, j'ai vraiment commencé à faire du surf à 52 ans. Pour d'abord des raisons de santé, puis des raisons personnelles, etc. Donc, j'ai commencé réellement à surfer à 52 ans.
Oui, parce qu'avant 52 ans, ton état physique ne te le permettait pas forcément.
Exactement. Et donc, mais il faut quand même savoir que j'arrive avec un bagage où j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du funboard quand j'étais jeune.
La planche à voile, du ski nautique.
C'est ça, c'est la planche à voile, j'ai fait du ski nautique, je fais du ski, donc voilà. Après, pourquoi 52 ans? Parce que, enfin, la vie fait que j'ai pu commencer vraiment à 52 ans, mais à un moment donné, je me suis dit, ce coup-là, moi, j'ai envie vraiment de surfer. Et du coup, j'ai eu de la chance, parce que du coup, je m'en suis donné les moyens. En fait, il n'y a pas 50 solutions. Quand j'ai commencé à apprendre, et bien sûr, comme je suis une compétitrice, moi, ça, c'est pas un très bon côté, mais je suis... faut toujours que j'y arrive. Et donc, je râlais un peu, parce que, évidemment, au début, je n'y arrivais pas. Mon mari m'a fait une réflexion, qui m'a dit, tu veux apprendre à surfer, tu veux être surfeuse, qu'une solution. Surf. Et en fait, je pense qu'il a raison. Quand on veut quelque chose, il faut le pratiquer. Et donc, je me suis donné les moyens de le pratiquer. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est comme si j'avais eu un déclic à 52 ans. It's time now. Tu vois? Et voilà. Après, j'ai aussi beaucoup de chance parce que j'en ai pratiqué beaucoup. Souvent dans l'eau chaude, ce qui aide quand même incroyablement. Et puis pendant toute la période, et moi je pense qu'en fait ça m'a aidée, où je n'ai pas pu surfer, évidemment j'avais un mari surfeur, et puis petit à petit deux ados qui se sont mis à surfer, puis de plus en plus, mais du coup en fait j'ai beaucoup regardé, et l'air de rien, c'est ce qu'on appelle les projections mentales, l'air de rien, je pense que ça m'a aidée aussi, tu vois. Après, j'adore l'eau, j'adore l'océan, c'est vraiment pour moi, je dis toujours, mon cœur d'enfant bat dans l'océan, moi c'est vraiment quelque chose, donc toute cette motivation était là. Mais après, je reconnais aussi que je m'en suis donné les moyens dans des conditions voilà, où l'eau était chaude, où les vagues étaient petites, où il n'y a pas de peur. Moi, je reconnais que si j'avais appris à 52 ans à surfer dans, je sais pas, parfois dans les Landes, quand ça tape fort, j'en serais pas là. Mais après, franchement, je crois que c'est une question de motivation. Et là, j'étais très motivée. C'est difficile à dire pourquoi, mais j'étais très motivée. Et du coup, voilà, j'ai écouté mon mari, tu veux apprendre à surfer, ben surf.
Voilà. Tu avais pris des cours aussi Un petit peu, non?
Non, au début, non. Quelques-uns
aujourd'hui, parfois, t'en prends?
Alors, quelques-uns, mais plus, je prends quelques cours maintenant. Enfin, bon, en fait, j'en ai pris deux dans ma vie, hein, on va pas non plus... Mais en fait, je pense que, enfin, avec le recul, je me dis, j'aurais dû prendre quelques cours au début. Mais comme je me suis lancée au Sri Lanka, en fait, bon, j'en ai pas pris. Après, j'avais une fille, très bonne surfeuse, je lui disais, tu pourrais me donner des cours, mais j'en ai pas eu beaucoup. Hein. je pense que j'aurais dû en prendre un peu au début, tu vois, pour dégrossir. Bon, après, faut pratiquer. Et puis maintenant que j'ai quand même, je sais, à peu près surfer, reprendre des cours, c'est super intéressant. Parce qu'à chaque fois, ils me donnent un petit truc qui, hop, me fait progresser encore, tu vois. Mais vraiment, l'idée, moi, c'est, moi, j'ai voulu surfer parce que tout d'un coup, je me suis dit, là, maintenant, je peux et je veux. Et voilà, après, il faut pas croire, hein, je suis quand même assez trouillarde. Donc moi, je ne vais pas si c'est trop gros, je ne vais pas... Enfin, ça, peut-être que j'ai passé l'âge de me faire peur. Donc, je ne surfe que pour le plaisir, en fait. Et donc, en surfant pour le plaisir, je pense que ça, c'est important. Bah, tu progresses, puis tu restes à l'eau, et puis tu avances, tu retournes, tu vois. Donc, voilà. Moi, je me suis offerte ma première planche à 52 ans. Et donc ça fait 12 ans. Depuis j'en ai 3, 4.
Et que des bonnes planches. On dirait un petit peu que, alors je sais pas si ça a commencé depuis ce moment où t'as commencé à vraiment te mettre à fond au surf, mais que peut-être dans cette deuxième partie de ta vie, où maintenant tes enfants ont grandi, voilà, tes grands-mères, il y a aussi un retour à toi et ce que tu as envie de faire. Et comment est-ce que tu appréhendes maintenant la relation à la vie, tu vois, sur cette deuxième partie? Est-ce que ça donne de l'énergie? Est-ce que ça donne l'envie de faire des choses? On dirait que tu es vachement inspirée, alors qu'il y a des gens de ton âge qui ne sont peut-être pas. On dirait que toi, la vie t'inspire et te donne envie de faire des choses.
Il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, et puis il y en a peut-être qui sont plus inspirés que moi. Oui. C'est sûr que ce que je ne veux pas, c'est rentrer dans cette dimension de me dire « je suis trop vieille ». Je pense que la vie, de toute manière, elle est bien faite, et que tes désirs... Tu vois, par exemple, quand on parlait du surf, moi, je n'ai plus le désir d'aller me jeter dans les énormes vagues et de me faire peur. Et donc, ben, je le fais pas. Donc, je pense que la vie, sur ça, j'ai assez confiance, si tu veux. Elle va me donner envie de faire des choses qui sont à hauteur de ce que je peux faire, en définitive. Et pas du tout me dire, en fait, j'aurais voulu monter à l'Everest. Je suis trop vieille. Parce que, en fait, j'ai pas du tout envie de monter à l'Everest. Voilà, j'ai pas envie de surfer les grosses vagues. J'ai envie d'être dans le plaisir. Donc, je me dis que c'est la vie qui me donne envie de faire ce que j'ai envie de faire. Mais après, là où je veux pas tomber et là où faut être vigilant, c'est un peu la flemme. Un peu, il faut mettre de l'énergie dans sa vie pour avancer. Tu vois, quand Yann me disait tu veux apprendre à surfer, ben surf. Bah oui, il faut mettre de l'énergie. Il faut aller à l'eau. Puis il y a des jours tu as moins envie. Tu restes très bien sur la plage. Puis à la fin de ta journée, tu te dis merde, je peux pas aller surfer. Tu vois, parce qu'il faut quand même faire un effort pour vivre. Et moi, j'ai envie de continuer à faire cet effort pour vivre. Donc j'ai envie de découvrir. Bon, je me suis mise à la poterie. Je vais me remettre un peu à la musique. Par contre. Ce qui me fait peur, et là où je dois être vigilante, c'est mes relations sociales. Il faut conserver les relations sociales. Et puis, c'est se dire qu'on a encore une utilité dans la vie. tu vois, qu'on, enfin moi, que j'apporte quelque chose encore à l'humanité, c'est peut-être un bien grand mot, mais à mes enfants, à mon mari, à mes petites filles peut-être, mais aussi à mon entourage, à... Et puis, en même temps, en grandissant, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise de dire, voilà, il faut faire confiance. On ne contrôle pas tout, il faut faire confiance. Mais moi, j'ai envie de rester dans la vie. Ça, c'est vraiment une envie que j'ai. Alors, avec ce que sera ma vie à ce moment-là, mais ouais, j'ai envie de rester dans la vie. Pas du tout de me dire, bah voilà. Voilà, bah là, tu vois, c'est fini, ça, c'est je peux tard. Plus le faire. Mmh. C'est trop tard. Voilà, bah non. Par contre, je le ferai à hauteur de ce que je peux faire. Mmh. Bien sûr. Mais j'espère rester dans cette dynamique-là. Mmh. Rester dans la vie, de rester dans « yes, I can ». Mais je peux ce que je peux. Tu vois, voilà, c'est pareil pour le surf, hein, c'est ça. C'est « oui, je vais surfer ». D'abord, je me souviens qu'une fois, il y a une jeune fille qui est venue me voir en me disant « c'est génial, tu fais du surf et tout ». Et je lui dis « oui, en fait, c'est moi, je fais du longboard ». Et elle me regarde, elle me dit « bah, le longboard, c'est du surf ». Tu vois ? Et ça m'a fait du bien, je me suis dit « oui, voilà, moi, je fais du surf à hauteur de ce que je peux faire ». Voilà. Mais j'y prends du plaisir. Ben, j'espère que la dernière partie de ma vie sera comme ça le plus longtemps possible, que je découvrirai peut-être un tas de choses et que je ferai à hauteur de ce que je pourrais faire. Mais en fait, si je suis un peu honnête, si j'ai un regret, c'est ça. C'est de ne pas avoir eu confiance assez tôt dans la vie pour dire que je fais des choses à hauteur de ce que je suis capable. J'élève le mieux que je peux mes enfants. Je fais du ski le mieux que je peux et je prends du plaisir. Et tu vois, pas toujours chercher... parce que si tu te mets un niveau, bah à un moment donné, tu te dis, bah non, tu vois, là, je peux plus.
Ouais.
Ou tu vois, là, je peux pas. Bah oui, parce que tu t'es mis un niveau. Tu vois, je sais pas si c'est clair.
C'est super clair et je trouve ça génial parce que justement, c'est sortir de ce peut-être un peu... perfectionnisme ou de cette idée qu'il faudrait faire les choses de cette façon et si on les fait pas de cette façon, ça ne vaut pas la peine.
Exactement.
Au lieu de faire et trouver dans ton plaisir, dans une action qui à la fois n'est pas spectaculaire, je veux dire, ça sera pas marqué sur le Book of Records.
Non.
Je ne pense pas.
We never know.
Et à la fois, ben en fait, c'est ta vie, t'en fais l'expérience et tu fais des choses qui te nourrissent et c'est ça qui te garde dans la joie, dans la positivité, dans la vie. Et moi, je trouve ça super inspirant parce que ça donne envie de faire quelque chose à son niveau. Même moi, je prends par rapport au dessin, tu sais, je fais mes animaux totems.
Mm-hmm.
Et je trouve ça... Alors, il y a plein de gens qui me disent « c'est incroyable ce que tu fais ». Bon, je me suis dit « ils n'ont jamais dû dessiner parce que... » Mais en fait, Eva Bijard, la photographe, elle m'a dit « oui, mais au moins, toi, tu fais ». Et c'est
exactement.
Vrai que c'est fait à mon niveau et j'ai du plaisir à le faire.
Exactement.
Après, il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas. En fait, je m'en fous.
Exactement. Et mais il y a aussi le fait que dans cette énergie que tu mets dans ce que tu fais, il se dégage quelque chose.
Oui,
et
voilà.
Du coup, dans mes photos, on dit « waouh ». Oui, enfin, si vous me voyez en vrai, vous ne diriez sûrement pas « waouh ».
Ouais,
tu vois, mais
ouais.
Voilà. Et le « we never know », ça me ramène à cette anecdote. Je ne sais pas si tu te souviens, en Australie, la première fois que j'ai acheté ma planche. D'abord, j'ai eu beaucoup de mal à la waxer parce que je trouve qu'elles sont moins jolies waxées. Mais donc, je l'ai waxée, mais je n'avais pas waxé le nose. Je commençais le surf, si tu veux. Et je croise un homme australien... et qui me montre l'avant de ma planche et qui me dit, bah, elle a wax là. Bon, il me dit en anglais, hein, bien sûr. Et je lui dis, non, mais ça, c'est pas pour moi. Il me regarde, il me dit, we never know. Du coup,
elle ne wax que l'avant de sa planche.
L'avant de ma planche s'appelle We Never Know. Mais c'est la vie, ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. Pour moi, ça m'a éclairé de me dire, tu fais. Et puis, we never know, on ne sait pas où ça te mènera, on s'en fout. C'est ça, quoi, on s'en fout. Mais tu fais.
Ouais.
Donc, tu waxes l'avant de ta planche, depuis je la waxe, parce que we never know.
C'est vrai. Et juste pour les gens qui connaissent pas, donc le fait d'aller complètement à l'avant de sa planche, c'est une manœuvre en surf qu'on appelle un nose ride. Et c'était un peu ton rêve, ah, quoi.
C'était mon rêve, ouais. Mais j'y suis toujours pas. Presque, presque, mais toujours pas.
On a des photos qui pourraient suggérer que t'y es presque. Une fois, tu as dit, tu m'as dit, j'ai l'impression que nous, on fait partie d'une lignée de femmes puissantes. Et t'as employé ce mot de femme puissante. Qu'est-ce que c'est pour toi d'être une femme puissante et pourquoi est-ce que c'est important d'être dans sa puissance en tant que femme ? Vous avez 2 heures.
Alors déjà, c'est très intuitif ce que je dis. Mais d'abord parce que je pense que moi, toi et ta sœur, vous êtes quand même des femmes ancrées, avec quand même avec une dimension spirituelle, et que vous le déclinez dans le quotidien de votre vie, et moi aussi, qu'on le décline dans le quotidien de notre vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas, je m'excuse l'expression, complètement barré, tu vois, et puis en même temps, on n'est pas que matérialiste, et je trouve qu'on a, quand je nous regarde, et je nous dis nous trois, hein, puisqu'on est 3 adultes aujourd'hui, on a ces 2 dimensions qu'on arrive à recentrer vraiment et qu'on décline dans notre quotidien. Et ça, franchement, ben moi, je ne croise pas énormément de gens comme ça. Et donc, pour moi, c'est ça la puissance, quoi, si tu veux. Et je suis vraiment fière d'appartenir à cette lignée. Mais c'est là que je reviens à, je pense, ne pas avoir caché ça en vous. Voilà, j'ai sûrement abîmé plein de choses, j'ai sûrement pas laissé s'épanouir tout ce qu'il fallait. Mais quelque part, j'ai pas complètement gâché et on n'a pas complètement gâché parce que vous êtes restées des femmes puissantes. Et ça, pour moi, c'est... Voilà.
J'ai une femme qui est venue sur le podcast, qui a fait la formation chamanique avec moi, qui s'appelle Karine Barco. Et elle explique bien que pour trouver son épanouissement spirituel, il faut vraiment avoir... Plus on a des racines dans la terre, plus on peut s'élever, en fait, même spirituellement. Et même un jour, je me souviens, tu m'as dit, parce que j'avais du mal à m'ancrer, vraiment à me poser, tu sais, j'étais toujours en mouvement, toujours en voyage, et t'étais un peu là, alors... À un moment donné, il va falloir quand même que tu te poses. Et tu m'as dit cette citation qui nous avait bien parlé, je me souviens, de « pour aller explorer le fleuve ».
Pour aller explorer le monde, il faut d'abord construire sa pirogue.
Il faut d'abord construire sa pirogue avec l'arbre.
Exactement.
On retrouvera exactement quelle était cette citation.
En fait, il faut avoir l'arbre dans lequel tu tailles ta pirogue.
Voilà.
Et après, tu peux partir naviguer.
Voilà.
Bah, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est... Et tu vois, quand tu me dis, ça rejoint un peu le cadre, ça aide. Ce cadre, il aide l'enfant, puis l'adolescent, à construire sa pirogue, à être ce qu'il doit être, à s'ancrer dans la vie. Ouais. Justement, c'est pour ça que sinon, l'adolescent, il flotte, il part partout, il se perd.
Merci Mouta. Quelque chose que tu as envie d'ajouter à tout ça ?
Oui. Faites de votre mieux, que ça soit en surf avec vos enfants et tout. Et puis, voilà, soyez léger vous-même, soyez légère vous-même.
Alors, inspirant, hein ? De mon côté, je pense que ma relation à ma mère s'est énormément apaisée aussi parce que je me suis rendu compte que je mettais énormément d'attentes sur la relation, énormément de pression pour que ma mère soit parfaite et qu'elle comprenne exactement tout, comment est-ce que je lui dis. Et je mettais vraiment la barre très très haut alors que ma mère est déjà géniale. Il y a un certain moment donné, je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais il y a un désenchantement qui se fait par rapport à son parent où on se rend compte qu'en fait... il ou elle n'est pas parfaite, et que cette personne est comme elle est, et qu'on ne la changera pas, et qu'il y a des choses qu'elle ne peut peut-être pas comprendre ou entendre exactement comme nous on souhaiterait qu'elle l'entende. Et parfois c'est difficile parce que ça demande à... Enfin moi, ça me demande de réaliser le fait que ma mère parfois ne me comprend pas. Ma mère parfois n'a pas la capacité de m'écouter. Et de me dire, c'est ok, et je suis ok avec ça. Pour moi, c'est un vrai travail que j'apprends à accepter. Alors, il y a plein de choses qu'elle comprend, il y a plein de choses pour lesquelles on a cet échange-là, et... mais pas tout. Et personne ne peut tout comprendre ce qu'on dit exactement. C'est complètement utopique. Donc, le fait de me dire parfois, bon ben, c'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est que moi, je me comprenne. C'est que moi, je sois dans ma compréhension de qui je suis. Ça, c'est le plus important. Après, que les autres comprennent ou pas, au final, c'est juste un plus. Donc voilà, j'espère que cette piste aussi aidera les personnes qui nous écoutent, qui peuvent avoir des difficultés à créer des relations épanouissantes avec leurs parents. En sachant que je place vraiment la barre haut, je me rends compte avec mes relations. Et je ne tolérerai jamais que ma mère abuse de moi. Et je suis dans ma communication très juste avec mes limites aussi. Et quand je vois des relations entre femmes, mère-fille, où en fait la mère prend complètement l'avantage du fait qu'elle ait ce pouvoir sur l'enfant, ça me fait vraiment mal. Et je me dis, bah non, en fait, ça, c'est pas juste. Et parfois, il faut apprendre à mettre ses limites. Mettre ses limites avec ses parents, c'est pas facile non plus. Et il y a ce degré de, est-ce que je veux mettre cette limite-là en sachant que potentiellement, la personne va réagir fortement à ma limite ? C'est toujours une réflexion à avoir. J'espère que dans mes partages sur ce podcast ou ailleurs d'ailleurs, je vous dis jamais quoi faire, mais d'être toujours dans la nuance et dans la compréhension de ce qu'on peut vivre. Voilà. J'espère que vous allez bien où vous soyez. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté ma maman. Je vous souhaite une belle journée, soirée où vous soyez, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.